Daniel va être jaloux, j'ai une heure.
Alors, je vais reprendre la suite de ce que j'avais fait l'autre fois, qui était sur Deutéronome. Et c'était surtout dans l'idée de faire un peu le parallèle, en fait, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, on avait vu la fois dernière le chapitre 6 de Deutéronome. Et donc là, on fait la suite, chapitre 7. Donc, je vous rappelle, l'idée générale, c'était que, pour moi, il y avait un peu une cloison, en fait, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et qu'on avait tendance à lui accorder moins d'importance à l'Ancien Testament qu'au Nouveau, et que pourtant on retrouve un tas de choses du Nouveau dans l'Ancien, et on explique un tas de choses de l'Ancien par le Nouveau, et un peu des deux, en fait, et les deux sont très, très mélangés, et ça m'a surtout frappé quand j'ai lu Ésaïe, où on voit on a l'impression de lire l'Évangile, en fait, quand on lit Ésaïe. Donc, et là, ça se voit sur un passage qui n'est pas très... qui saute pas aux yeux, qui n'est pas les passages qu'on aime bien lire, Deutéronome, Lévitique, tout ça, mais il y a beaucoup de choses qu'on retrouve, des idées qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, et c'est juste pour souligner encore une fois de plus que c'est vraiment important de lire l'Ancien, mais de lire avec l'idée en tête de qu'est-ce que ça veut dire, de quoi ça parle, qu'est-ce que ça apporte au sujet de Jésus, en fait. Qu'est-ce que ça apporte dans notre vie à nous, pas juste le lire d'une manière historique, en fait. Donc Deutéronome chapitre 7. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les Guirgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battues, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Et en fait... Bah, dès le départ, en fait, tout ce qui est dit là, ça s'applique à nous. Donc, bien sûr, le peuple d'Israël a été mis à part et il était séparé des autres nations pour Dieu. Et la même chose s'applique à nous, en fait. On est mis à part pour Dieu et on est séparé du monde. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est que au verset 2, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus. Et juste avant, ça dit que les nations sont sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Et on est toujours dans la même situation qu'Israël, dans le sens où le malin est plus fort que nous. Le malin est plus fort que moi, en tout cas, et plus fort que nous en tant que personne unique. Simplement, c'est pas nous qui remportons la victoire sur lui, c'est Dieu qui combat pour nous, et c'est Dieu qui le livre entre nos mains. Et c'est lui qui fait toutes choses, non pas parce qu'on est plus fort, mais parce que c'est Dieu qui est le plus fort et qui nous donne sa victoire. Et là, Israël avait des nations qui étaient bien plus grandes que lui, et c'est ce qui a fait peur aux espions qui sont rentrés dans le pays de Canaan. Ils ont vu, mais ils sont des géants, ils ont des forteresses, on ne peut pas les battre. Effectivement, d'eux-mêmes, ils ne pouvaient pas les battre, mais ils devaient mettre leur confiance en Dieu et attaquer avec la confiance que Dieu allait faire les choses. Et pour nous, c'est la même chose, on l'a déjà dit souvent, on a des géants en face de nous, on a le malin qui est bien plus grand que nous. Et pourtant, Dieu nous donne la victoire, on doit y aller avec confiance, pas avoir peur, se dire non, c'est peut-être pas le bon moment, tout ça. Il faut y aller, quand Dieu nous dit, c'est bon, je te donne la victoire, on y va, il n'y a pas de souci à avoir. Et la formulation, elle est particulière dans le sens où c'est... j'ai perdu mon verset. Alors, c'est peut-être pas écrit directement à cet endroit-là, mais ça nous dit globalement que le pays, il était donné au peuple d'Israël. Et il était donné avant même qu'ils y rentrent. Et c'est ça qui est important pour nous aussi, c'est que le royaume de Dieu, il nous est donné. On y est d'une certaine façon, même si ça prendra pleinement son sens quand on sera auprès du Seigneur, ou quand il reviendra. Enfin, ça reviendra au même. Mais en tout cas, les choses nous sont données et tout est... c'est la parole de Jésus, tout est accompli, il a déjà tout fait pour nous. Et les Hébreux, c'est vrai qu'ils ont eu un effort à fournir dans un certain sens, mais c'est Dieu qui avait déjà donné le pays, c'était déjà fait d'avance. Et nous aussi, on a à fournir un certain effort dans notre vie, juste pour se soumettre à Dieu, pour lui obéir, pour le laisser agir, mais tout est fait d'avance. Et si souvent, on perd un peu notre énergie à essayer de « faut que je devienne plus sain que ça, faut que je sois meilleur pour toi Seigneur, faut que je fasse ceci », et on s'évertue à faire des choses qui sont déjà prêtes par le Seigneur, qui sont déjà faites. Et le plus gros pas qu'on ait à faire, et c'est ça qui est compliqué pour nous, je pense, c'est qu'on doit le laisser faire, en fait, simplement. On doit le laisser agir et pas juste nous essayer, mettre notre énergie et gaspiller notre énergie, en fait. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec les espions d'Israël. C'est ce que le malin essaye de faire avec nous. Tu vois pas, le royaume de Dieu, tu possèdes rien du tout, là. Tu n'y es pas encore, tu n'as rien fait, tu n'as rien conquis. Et tu crois vraiment que Dieu il te donne tout ça? Tu as bien des efforts à faire, tu vois pas ces géants que tu dois combattre? Tu dois pas tout le pays que tu as à prendre possession? Et c'est la même chose qui nous fait exactement à nous. Hein. Le parallèle est vraiment frappant entre le peuple d'Israël et nous. Le malin nous dit pareil, mais tu crois vraiment que tu es dans le royaume de Dieu? Tu as vu comment t'es? Il y a quasiment rien qui a changé dans ta vie, peut-être, ou il y a ça, mais il y a encore tant de choses comme ça qui vont pas. Et tu crois vraiment que le royaume de Dieu, il t'appartient? Et il nous met le doute comme ça, jusqu'au moment où on se dit, finalement, j'y suis pas, c'est vrai, il faut encore que je fasse tous ces efforts-là. Et comme les espions, on fait un pas en arrière et on doute, et c'est là où on n'obéit pas au Seigneur, où on lui désobéit. Et pourtant, Dieu nous a tout donné. C'est écrit. C'est vrai que des fois, on n'en voit pas les conséquences directes dans notre vie, mais tout ce qui nous reste à faire, c'est de profiter de la victoire que Dieu nous donne. Et c'est vrai que moi, c'est compliqué, d'autant plus qu'on a l'impression de pas... Je reste un peu scientifique dans ma tête, malheureusement, je dois dire ça. C'est qu'on a tendance à vouloir voir les conséquences et dire, maintenant... Enfin, on attend d'être parfait pour se dire, c'est bon, je suis au Seigneur, en fait. Et pourtant, le Seigneur nous prend tel qu'on est et il nous rend parfait. Il y a les deux notions, il y a la notion qui nous donne tout, et pourtant, ce n'est pas encore totalement effectif dans nos vies. C'est ça qui est un peu compliqué à saisir, je trouve. Au verset 3, « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. » Et c'est tout à fait valable pour nous aussi. C'est une instruction du Seigneur, et c'était quelque chose qui était extrêmement important, c'est pour Maï et moi, c'était qu'on fasse notre vie, qu'on se marie avec quelqu'un qui soit chrétien et qui honore réellement le Seigneur, qui le suive. Et c'est toujours valable pour nous, le Seigneur nous demande qu'on ne se marie pas avec des gens qui ne lui appartiennent pas, parce que ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Et c'est vrai que c'est compliqué de se dire ça, on est dans un monde où il y a beaucoup de va-et-vient sur ce plan-là, les gens ils nouent des contacts, ils nouent des amitiés avec plein de gens non chrétiens, et des fois finalement l'amitié prend un peu racine, prend de l'importance et on se dit finalement peut-être que c'est quand même du Seigneur, c'est quand même la bonne personne. Et en fait le Seigneur veut pas du tout ces choses-là, ça l'honore pas qu'on aille s'allier avec quelqu'un qui le suit pas, qui veut pas de lui. Alors après, je suis d'accord, il peut y avoir des exceptions, mais si je dis une exception, c'est-à-dire que la règle générale, c'est qu'on doit pas s'allier avec ce qui ne lui appartient pas. Et on retrouve ça dans 2 Corinthiens 6, où Paul il dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Et c'est la même idée, en fait, de ne pas s'allier avec quelqu'un, parce qu'on va faire un bout de chemin ensemble, et si on a chacun des directions différentes, on ne peut pas, de base, être sur le même chemin. J'espère que je... prêche à des gens convaincus, hein, mais d'autres idées derrière, c'est que si on s'allie avec quelqu'un qui n'est pas croyant, alors on se verra imposer des règles qui ne seront pas les nôtres. Il aura peut-être en vue de faire telle ou telle chose qui ne sera pas notre but à nous. Son but à lui, s'il appartient pas au Seigneur, c'est clairement pas de répandre l'évangile. Alors que nous, c'est notre but, c'est notre direction. Et pareil, on commence à comprendre tout doucement aussi que l'éducation des enfants, si on ne part pas sur la même base... ça devient compliqué aussi. Qu'est-ce qui est important pour moi de transmettre à mon fils? C'est qu'il se tourne vers le Seigneur le plus rapidement possible. Si la personne avec qui je vis ne partage pas le même but, ça devient compliqué. Et cette exhortation-là, c'est pas une exhortation, je le prends même comme un ordre du Seigneur de pas se mélanger avec les gens non chrétiens, pas se mélanger dans ce sens-là, hein, faire une alliance comme le mariage. Ou pour moi, c'est quelque chose qui est valable aussi, pas uniquement pour le mariage, mais faire attention dans nos propres vies. Ça va être plus compliqué si je monte ma propre affaire, ma propre boîte, mon entreprise avec quelqu'un de non chrétien. On n'a pas les mêmes buts. Et si finalement je témoigne pendant que je travaille, est-ce que lui ça va lui plaire? Comment ça va se passer? Si réellement je veux honorer le Seigneur, ça peut se compliquer très facilement, très rapidement. On retrouve la même exhortation dans Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et finalement, c'est intéressant de regarder dans la Bible, quand on regarde sur le mot joug, on s'aperçoit que Dieu lui-même met un joug sur nous. Et on voit pas que, il n'y a pas uniquement l'idée que c'est le malin qui essaye de nous. Le joug, c'est ce qu'on mettait sur les bœufs et avec quoi on les dirigeait. Il n'y a pas que le malin qui essaye de mettre ça sur nous, c'est que le Seigneur en a un à nous mettre. Il y a le verset qui sort là-bas tout doucement. C'est Jésus qui dit: prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et dans Lamentation de Jérémie, voilà, ça dit: il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Ça m'a travaillé un petit peu de dire: tiens, c'est marrant, la Bible nous exhorte à être sous le contrôle de quelqu'un. Mais ce quelqu'un, bien évidemment, c'est le Seigneur et c'est pas le malin. Alors on retrouve dans ce passage-là l'idée que Israël est un peuple à part, il est saint pour Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans ces passages. Quand il dit de ne pas s'allier avec un autre peuple, c'est parce que Israël est un peuple à part et qu'il ne fallait pas qu'il se mélange. Et c'est la même chose qu'on retrouve dans le Nouveau Testament à propos de Jésus. Quand on dit il était la lumière, il est venu dans le monde et le monde ne l'a pas connu, le monde ne l'a pas reçu. C'était quelque chose qui était complètement étranger au monde. Jésus était totalement étranger au monde. Et c'est pour ça que le monde ne pouvait pas être le recevoir et l'inclure dedans. Et je pense d'un point de vue chimie à un tas de matériaux qui ne se mélangent pas les uns aux autres. Vous avez beau essayer de les fondre ensemble, les mélanger, ben ça finit par ressortir et les deux matériaux ne peuvent pas se mélanger. Et les alliages, c'est quelques cas particuliers où on y arrive. Et c'est intéressant, quand j'étais encore en train de faire de la chimie, on voyait des fois où des matériaux, où on arrivait à mélanger les deux matériaux, et on dit super, ça en fait plus qu'un, ça a l'air de bien marcher. Et quand on regardait au microscope, on voyait que finalement, l'un des deux matériaux faisait des espèces de petites boules, il se mettait tout seul dans son coin, il était entouré par l'autre. Et donc c'était uniquement à l'échelle tout petit, et d'impression générale, on a l'impression, tiens, c'est bien, ça colle bien, ça fait un seul matériau. En vrai, quand on regardait bien dans le détail, ça faisait deux choses qui se séparaient complètement et ils n'arrivaient pas à se mélanger. Pourquoi? Parce que c'est pas la même nature. Et ça devrait être normalement automatique. Quand je vous disais tout à l'heure, j'espère que je prêche à des gens convaincus, c'est automatique. On ne peut pas s'allier avec quelqu'un qui appartient pas au Seigneur parce que ça colle pas, ça veut pas et on peut pas, en fait, tout simplement, tout naturellement. Donc Jésus était dans le monde et le monde ne l'a pas connu. Et ça, c'est pas uniquement applicable à Jésus, c'est applicable à nous aussi. Dans Jean 8, on retrouve, il leur dit, donc c'est Jésus qui parle: vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'était pas le passage qu'il me fallait. Donc ça, c'est Jésus qui parle aux pharisiens et qui leur dit: on n'est pas du même monde, on peut pas se comprendre dans un sens. Et il le dit après à ses disciples, voilà, dans Jean 15: si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Et c'est là où on voit un peu qu'on est sanctifié par le Seigneur. C'est qu'on est des humains comme les autres. On a été pris du monde comme tout le monde. Si je vous dis ce que je viens de dire. On a été pris du monde comme tous les humains. Et pourtant, on est à part, on est différent. Et cette question d'être à part, je ne sais pas si vraiment on l'a retrouvée dans le peuple d'Israël, mais il y a quelque chose dans un sens de supplémentaire dans le Nouveau Testament, c'est que ça impliquait une responsabilité. Israël, il était un peu, moi je le vois comme ça en tout cas, il était un peu replié sur lui-même, il adorait son Dieu et surtout, il ne fallait pas qu'il se mélange. Et il y a quelque chose de différent avec nous dans le sens où, effectivement, on ne doit pas s'allier, faire des alliances avec les gens qui appartiennent pas à Dieu. Mais Dieu nous demande quand même d'aller vers les autres. Et le fait d'être mis à part, ça engendre une responsabilité. Cette responsabilité, c'est d'annoncer l'évangile, c'est d'annoncer pourquoi on est mis à part, en fait. Et c'est dans Romains, c'est une reprise d'Ésaïe, il me semble, Romains 10, verset 14. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il dit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. » Et en fait, c'est là notre responsabilité, c'est d'aller vers les autres et d'annoncer l'évangile, et pas de rester cloîtré dans notre... entre nous, comme ça, on dit, bon, on est bien dans l'église, et puis il faut surtout pas s'allier avec les autres, on reste dans notre coin. Et c'est pas du tout là le but du Seigneur. Il veut pas qu'on se mette sous le joug du malin, mais il veut quand même qu'on aille propager l'évangile, ça c'est important. Alors ça, c'est quelque chose, je sais pas si je vais insister, parce qu'en fait, Daniel en a parlé l'autre fois, dans sa dernière prédication. Alors c'est la suite de Deutéronome, donc au verset 6, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Donc ça, je viens d'en parler. Et le verset suivant, « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous, pardon, et qu'il vous a choisi. » Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent, et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui, et mets-les en pratique. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous. C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est pas parce qu'on est plus beau que les autres, parce qu'on est je sais pas quoi. Il n'y a pas de raison comme ça qui fait que Dieu s'est attaché à nous. C'est juste qu'il nous aime, en fait, et qu'il nous a choisis. Et on revient à l'idée de Daniel l'autre fois, que Dieu a une échelle des valeurs qui est complètement inversée par rapport à la nôtre. Ce qui est intelligent à nos yeux, c'est fou à ses yeux. Et il a utilisé des choses folles à nos yeux, alors que c'était intelligent à ses yeux. Et dans l'Épître aux Corinthiens, on retrouve donc ce verset. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et le but, en fait, du Seigneur, je pense, quand il a choisi Israël, un petit peuple comme celui-là, ou quand il nous choisit, nous, du peu qu'on représente aussi, ben, c'est la fin du verset de Corinthiens, c'est « afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu ». S'il nous choisit, c'est parce que comme ça, il peut tirer sa gloire de nous. Et on reprend l'histoire de Gédéon, qui marchait avec très peu d'hommes. Pourquoi ? Pour que la gloire revienne à Dieu. S'il avait écrasé l'ennemi, s'il avait attaqué avec 1 million de personnes, un groupe de 10 000 personnes, forcément, il n'y a pas à rendre gloire à Dieu, c'est quasiment normal. C'est l'ordre des choses naturelles. Mais là, Dieu, il nous utilise, nous, pour faire des grandes choses. Et il nous utilise, nous, parce qu'on est on est petits, pour tirer sa gloire. Et donc, Donc dans la suite de Deutéronome, c'est le Dieu dit, je vous ai retiré de la main de Pharaon, je vous ai délivré de la maison de servitude. Et normalement, ça, c'est quelque chose qui nous concerne aussi. Il nous a délivré de la main du diable, il nous a sorti du royaume. Le parallèle est vraiment complet, en fait, entre Israël et nous. C'est qu'Israël est sorti du royaume de celui qui l'oppressait, et nous aussi, on est sorti du royaume du diable. Et quand vous regardez l'histoire d'Israël, ça tourne en grande partie autour de ce point-là, du fait qu'ils ont été délivrés de Pharaon et qu'ils sont sortis. Et après, quand on lit la suite, on revient toujours à ce point-là, qui dit « Mais vous êtes sortis du royaume d'Égypte et vous remettez sous la domination de un tel ou de un tel. » Et normalement, ça devrait être la même chose pour nous. Au moment où je suis sorti du royaume du diable, où on m'a fait passer dans l'autre royaume, ça doit être un point central dans ma vie, tout doit tourner autour de ça. À chaque fois que je vais réfléchir, je dois revenir à ce point-là et me dire « Ah oui, non, j'ai été délivré de ça, il ne faut pas que je me remette sous l'influence, sous la puissance de quelqu'un d'autre. » Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ça, c'est la version Ancien Testament de « Je suis le chemin, la vérité et la vie » pour moi. C'est la même chose, c'est Dieu qui dit « Je suis le seul Dieu, il n'y en a pas d'autre que moi. » Voilà, ça s'arrête là. Et Jésus l'a repris après en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » On est intolérant. Hein? Non, mais on est les seuls qui détenons la vérité. C'est vrai. L'intolérance est biblique, finalement. Mais c'est vrai que c'est compliqué de parler de ça. On en rediscutait l'autre fois on avait des témoins de Jéhovah à la maison, et donc on a eu une discussion acharnée, on va dire. Et en fait, c'est vrai que à la fin, on était d'accord tous les deux. Ben, j'ai la vérité et je veux vous la donner. Et le monsieur disait non, c'est moi qui ai la vérité, je veux vous la donner. Et dans les deux cas, on bloque de toute façon. Chacun pense avoir la vérité, chacun est persuadé entièrement de l'avoir. Et on bloque à ça finalement, quoi. Mais bon, après, voilà, on a discuté autour d'un tas de versets, il n'y a pas toujours. C'est pas toujours très simple. Mais ce qui est intéressant, bon, au moins sur ce point-là, ils sont à peu près d'accord, c'est qu'il y a. Enfin, et encore, je sais pas. C'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et que celui que nous connaissons, c'est le Dieu véritable. Alors, je ne sais pas s'ils connaissent réellement celui-là, les témoins de Jéhovah. La preuve de tout ça, ben c'est tout ce qu'on lit dans la Bible, c'est tous les miracles qu'a fait Jésus, c'est sa vie qu'il a donnée pour nous. Et après, ben c'est toutes les vies qui ont été transformées par Jésus. Et c'est là où on en arrive au point où, et moi dans tout ça, quel rôle je joue? Quel rôle je joue pour affirmer que Dieu est le vrai Dieu? Est-ce que je suis une preuve concrètement que Jésus est le vrai Dieu? Quand on me voit, quand on voit les changements qu'il y a eu dans ma vie, bah déjà, est-ce qu'il y a eu des changements dans ma vie? Et quand on me voit, est-ce qu'on peut dire oui, c'est vrai, c'est le vrai Dieu, regarde comment il était avant, comment il est maintenant? Il n'y a pas photo, c'est sûr. Il est un témoin que Jésus est vraiment vrai, si on peut dire ça. Et on a tendance, en tout cas j'ai tendance régulièrement à utiliser d'autres choses, vous savez. Quand les gens me disent, bah oui, mais Dieu, tout ça. Ah si, si, Dieu, il fait des miracles là-bas en Asie. Puis Dieu, il fait des miracles aussi là-bas en Afrique. Et puis en Amérique du Sud aussi. Mais, bah et toi alors? Ouais, moi aussi, mais. Enfin, moi aussi, mais. Et le moi aussi, mais, il gêne. Pourquoi est-ce que moi aussi, mais? Non, Dieu aussi, il fait des miracles dans ma vie. Et je vous encourage à réfléchir un peu en quoi est-ce que vous êtes une preuve que Dieu est vivant. Qu'est-ce qu'il a fait dans votre vie? C'est tout simple, en fait. Alors, la suite du verset. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Et la miséricorde de Dieu, quand j'y ai pensé, si c'est un peu. On revient encore une fois à Jésus, en fait. Pourquoi est-ce qu'il nous fait miséricorde? Parce qu'il nous connaît. Et quand je me suis dit pourquoi il me connaît, le verset qui m'est venu en tête, c'est dans Hébreux 4, le verset 15. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dieu, il est miséricordieux uniquement parce qu'il a vécu notre vie, qu'il sait ce que c'est, et que du coup, il sait exactement ce qu'on peut ressentir. Et c'est bon de se le rappeler, des fois, on a tendance à le cloisonner, à le mettre au ciel, et puis à se dire, finalement, qu'est-ce qu'il peut y comprendre? C'est pas lui qui le vit, et si, lui, il a vécu aussi des choses, et il sait ce que c'est que d'être un homme, il sait ce que c'est que les problèmes des hommes. En tout cas, Dieu est miséricordieux, mais aussi, on voit dans la suite, il use de représailles envers ceux qui le haïssent. Et pour l'instant, c'est différé, il y a un temps de grâce, mais à un moment ou un autre, quand le Seigneur reviendra, il mettra fin à tout ça, et là, réellement, ceux qui ne lui appartiendront pas seront jetés en enfer. Ça fait pas bon pour évangéliser tout ça, quoique. On se dit, Dieu, il est plein d'amour, mais oui, mais Dieu fera ça aussi parce qu'il est saint et qu'il ne peut pas supporter le péché. Et il faut aussi qu'on le garde en tête, ça, il est plein d'amour, mais il faut aussi qu'il punisse le péché. Et donc, un jour ou l'autre, il y aura l'enfer pour ceux qui ne lui appartiennent pas. Finalement, c'est un moyen aussi d'évangéliser. C'est un peu travaillé par la peur, mais... C'est à utiliser aussi parce qu'on ne peut pas toujours dire aux gens « Dieu vous aime, Dieu il est plein d'amour, Dieu il est gentil, il veut faire ça, il veut vous donner ça ». On a l'impression de vendre un produit presque aux gens, en fait, de leur dire « Là, ça va être bien pour vous, il y a tout ça davantage ». Et malheureusement, ce n'est pas la raison pour laquelle on s'est tourné vers Dieu. Normalement, non. Alors, je ne sais pas pour vous pourquoi vous êtes tourné vers Dieu, mais moi, c'était parce qu'il y avait l'enfer à la clé si je ne me tournais pas vers lui. Et que, quand je sais qu'il m'aime, je peux que répondre à son amour. Et donc, des versets qui disent que Dieu fera périr ceux qui ne lui appartiennent pas. Donc là, on le voit dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, on a par exemple Romains 2, verset 4, où Paul dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité ?» Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu pousse à la repentance, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Alors c'est dans 2 Pierre la suite. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et le Seigneur tarde parce qu'il sait qu'un jour il arrêtera toute chose et que ceux qui lui appartiennent pas périront. Mais il retarde du plus possible. Alors je vais passer directement au chapitre 8 de Deutéronome. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu gardais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connue de tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie, comme un homme châtie son enfant. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. On revient très Ancien Testament, très légaliste. Et pourtant, j'ai retenu une interprétation qu'on nous a donnée une fois. Les commandements, on peut les voir de deux façons différentes. Soit c'est fais pas attention, mais je t'ordonne de ne pas tuer. Donc c'est réellement un commandement, tu dois pas faire ça. Ou on peut le lire quand on dit tu ne tueras point. C'est « je te donnerai la faculté de ne pas tuer ». Et il y a un peu les deux dans les commandements du Seigneur. S'il nous l'ordonne de faire ça, ça veut dire qu'il nous donne aussi la possibilité de ne pas le faire. Et c'est bon de lire les commandements en regardant comme ça, en disant ben, je te donnerai la possibilité de ne pas tuer. Je te donnerai la capacité, on peut le dire comme ça, de ne pas voler. Je te donnerai la capacité de ne pas mentir. Et vous pouvez les lire comme ça, et c'est une autre façon de les voir, et je pense que c'est tout aussi valable, c'est lié dans le cœur du Seigneur. Et c'est toute la différence, là, il y a quand même des différences forcément entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais entre ce qui se passe avant Jésus et après, c'est que Dieu nous donne son esprit et qu'il nous rend capable d'obéir à ses commandements. Et tout l'Ancien Testament, si vous le lisez, c'est un peu résumé par Paul dans le début de l'Épître aux Romains, c'est une preuve qu'on ne peut pas obéir à la loi de Dieu de nous-mêmes. Israël, pendant des centaines d'années, n'a pas réussi à obéir à Dieu, ou de manière temporaire, de manière ponctuelle. Et ça a juste été utilisé par Dieu. Alors, bon, c'est juste, ça fait beaucoup, toute l'histoire d'un peuple, pour résumer en deux lignes comme ça. Mais c'est la preuve qu'on ne peut pas obéir à Dieu. On a beau faire ce qu'on veut, on n'y arrive pas de nous-mêmes. Mais Dieu nous donne la possibilité de mettre en pratique tout ça, tout ce qu'il a dit. Afin que vous viviez, que vous multipliez. Et quand j'ai vu ce verset-là, je me suis dit, le Seigneur voulait qu'Israël multiplie, et il veut aussi que nous, on multiplie. Alors que le nombre de chrétiens multiplie, forcément, mais que dans notre cœur, on grandisse aussi, qu'il y ait une croissance. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux y faire, moi? Quel rôle je joue dans tout ça? On a l'impression, dans la Bible, finalement, on ne peut pas faire grand-chose, sauf le Seigneur le faire. Mais en même temps, on a quelque chose à faire. Et il y a une image qui m'est venue en tête, qui est celle d'une lettre que je recevrais d'un notaire qui me dit, ben voilà, monsieur Terrier, vous avez un tel qui était votre parent ou je sais pas quoi, je connais personne dans ma famille, hein, mais qui aurait un château, et cette personne est décédée, vous héritez de ce château. Donc je vous dis, personne qui a un château dans ma famille, donc c'est dommage. Je reçois cette lettre, et je peux dire, je peux la prendre de deux façons. Je peux me dire, n'importe quoi, un château pour moi, déjà je mérite pas ça, j'ai pas les moyens de m'acheter un château, enfin c'est compliqué, un château on l'a pas comme ça, ça paraît facile, mais je peux toujours me dire, non, château non, c'est le jour où j'aurai travaillé assez dans ma vie, j'aurai amassé de l'argent, je pourrai m'acheter un château. Mais là, on peut ne pas y croire en fait à cette lettre de notaire. Et on peut aussi simplement dire, d'accord, c'est un héritage, j'ai rien fait de spécial, je le mérite pas, mais je le reçois, je vais le prendre. Et c'est un peu la même chose avec le Seigneur. Il a toute la lettre qui décrit l'héritage, qui dit tout ce qu'on peut avoir, et puis des fois on se dit, ouais, mais non, moi je suis pas assez bon de la part du Seigneur, je peux pas prendre ces choses-là, je peux pas, tout n'est pas forcément pour moi, enfin... Non, c'est compliqué, c'est pas aussi simple que ça quand même, on peut pas simplifier comme ça. Et on réagit comme ça, alors qu'en fait, ça n'a aucune notion de « je mérite », il n'y a aucune notion de mérite dans la Bible. C'est juste, c'est un héritage, et il suffit quoi? Il suffit d'en prendre possession en fait. Et ce château, si je le reçois, il faut que j'aille à l'endroit où il est. Donc j'espère plus dans le sud où il fait beau, tout ça, parce que ici... Donc il faut que je me déplace, que je fasse un certain trajet, et après il va falloir, je sais pas, un château, on peut pas tout faire d'un seul coup, quoi. Si en plus il a été abandonné quelque temps, ou on sait pas trop, bon, je vais m'installer dans quelques pièces, et puis au fur et à mesure, je vais aller voir les autres pièces, je vais équiper la maison, avec le peu qu'on a, elle va rigoler, Maï, mais avec ce qu'on a là dans notre maison actuelle, on va avoir du mal à remplir le château. Quoique... Mais il va falloir que du temps pour que je m'installe dans ce château. Et la comparaison avec le Seigneur, elle est un peu pareille. C'est tellement vaste, tout ce qu'il a à nous donner, que il faut que je me déplace, que je prenne possession du château. Là, je vais avoir les clés. Le premier pas, c'est les clés. J'imagine un gros trousseau de clés, tout ça. Je vais ouvrir, et puis je vais forcément faire une petite balade dans le château, voir un peu ce qu'il y a partout, quoi, parce que c'est autant savoir ce que j'ai gagné. Et puis après, je vais installer mes affaires dans quelques pièces, et puis tout doucement. Et le Seigneur, c'est la même chose. C'est tellement vaste, je vais prendre les clés, je vais aller ouvrir, je vais faire un petit tour du proprio, voir tout ce qui est à disposition, et puis après, progressivement, je vais m'installer, je vais juste prendre possession. Et tout l'héritage qui a été donné à Israël, comment Dieu le justifie, juste par son amour, et aussi parce qu'il l'a promis. On le lisait tout à l'heure. Je ne sais plus où, mais c'était « Ce n'est pas à cause de toi, mais c'est parce que je l'ai promis à tes pères. » Là, au verset 8, « L'Éternel vous aime, il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. » Et la raison est la même pour nous. Dieu nous a promis tout ça. Il nous aime. Il veut juste nous le donner. Et Dieu ne ment pas. Il ne nous fait pas des promesses pour finalement dire « Ouais, mais toi, alors toi, t'es moyen, t'auras que ça. Et toi, bon, t'auras que cette partie-là. » Il veut tout nous donner. Il faut en prendre possession. Ouais, mais château en ruine, ça allait mieux pour mon image. Parce qu'il faut en prendre possession doucement. Mais en même temps, ouais, c'est vrai. Il nous donne tout à l'intérieur. Mais il faut quand même que tu t'installes progressivement et que tu t'appropries le château. C'était l'idée. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier, de t'éprouver, de savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ses commandements. Et c'est quelque chose qui s'applique encore une fois tout autant à nous qu'au peuple juif. Ce verset-là, on peut vraiment le lire pour nous, il n'y a pas de... Le verbe « humilier », alors je crois que je l'avais déjà dit pendant un mardi soir, ça vient donc de... c'est la même notion que « humble », et ça vient de « humus », en latin, qui veut dire « le sol » ou « la terre ». Et donc finalement, quand on parle d'humilier, c'est juste reprendre notre position à nous, c'est juste se remettre à terre, reprendre les pieds par terre. Et ce qui est encore plus intéressant dans le verbe humus, c'est que le mot homme vient de la même racine. Dans l'Ancien Testament, si vous lisez les petites notes en bas, Adam, ça vient de Adama, qui veut dire le sol, la terre. Et finalement, en français, on a réussi à garder la même notion que homme vient de humus, qui est le sol, la terre. Et donc finalement, quand on dit s'humilier dans la Bible, c'est juste reconnaître d'où on vient, de la terre. C'est pas forcément prendre une position plus bas que la terre, mais c'est reprendre notre position qui était à nous au départ. C'est savoir d'où on vient, en fait. S'humilier. S'humilier devant Dieu, c'est lui rendre sa place, et c'est reprendre la nôtre, au lieu d'échanger les places comme on le fait souvent. Et c'est juste reconnaître que, d'où je viens, d'Adam et Ève qui ont péché, je suis pécheur aussi. Et je le reconnais, Seigneur, je suis pécheur. Ça, c'est s'humilier devant lui. On doit tous passer, finalement, par un moment ou un autre où on passe cette limite entre l'Égypte et puis le pays de Canaan. Et je pense que l'humiliation, c'est la clé de tout ça. Quand on parlait de Jean-Baptiste, dans le Nouveau Testament, qui dit qu'il vient préparer le chemin du Seigneur. Comment il le préparait ? En annonçant la repentance, en disant « Repentez-vous de vos péchés ». C'est comme ça qu'il préparait le chemin du Seigneur. Et dans nos villes, comment rentrer dans le royaume de Dieu ? La première étape, c'est reconnaître, m'humilier, dire « Oui, Seigneur, c'est vrai, je suis pécheur ». Et après, le Seigneur nous dit « J'ai payé pour toi, il n'y a plus rien à, payer, tu peux rentrer dans le royaume ». Et tant que je dis je suis pécheur, mais pas tant que ça non plus, quoi. J'ai pas non plus commis des crimes, j'ai pas fait ça. Dès qu'on minimise un petit peu notre faute, alors le Seigneur dit, hop, 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 tu rentres pas, il y a encore quelque chose qui va pas. Puisque tu reconnais pas ces fautes-là, je peux pas payer pour des fautes que tu reconnais pas. Dans un sens, c'est un peu comme ça. Et au moment où vous reconnaissez tout, le Seigneur dit, ok, j'ai payé pour tout ça, il en manque pas un, c'est bon, tu peux rentrer. Et le verset 3 de Deutéronome 8, il est frappant pour ça. C'est pas le diable qui a humilié Israël, qui l'a fait souffrir de la faim, qui l'a nourri de la manne, c'est sûr. Mais c'est pas le diable qui a fait tout ça au peuple d'Israël, c'est Dieu qui le dit lui-même. Dieu dit, je t'ai humilié, je t'ai fait souffrir de la faim, mais en même temps qu'il a fait tout ça, je t'ai nourri de la manne. Et j'ai fait que ton vêtement ne s'est pas usé, que ton pied ne s'est pas enflé. Et on attribue très 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 souvent tous nos malheurs au diable en disant, c'est lui qui essaie de nous faire ça, ça et ça. Il y a une partie de vrai, il va tenter de nous faire chuter, c'est sûr. Mais il y a une partie où Dieu simplement nous éprouve. Et pourquoi il le fait ? Ben c'est écrit dedans pour voir quel est le... Alors comment c'est écrit ? Afin de t'éprouver et afin de voir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non mes commandements. Il y a des fois pas à compliquer la vie, à juste accepter ce qui nous arrive et savoir que le Seigneur, nous, dans un sens, nous teste et essaye de voir, bon alors voilà, est-ce que la leçon elle est apprise ou est-ce qu'il faut qu'on repasse un petit coup, qu'on la revoie ensemble. Et reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Étrangement, ce verset me fait plaisir. C'est pas juste le plaisir d'être châtié, on n'est pas comme ça non plus, mais c'est de dire que Dieu nous châtie comme son enfant. Et ça, c'est pareil, ça vaut cher de savoir que Dieu m'aime, il m'aime comme son enfant, et que c'est pour ça qu'il me corrige. Moi, c'est quelque chose qui me réjouit le cœur, de me dire Dieu, il va me corriger, il va m'empêcher de faire des bêtises, parce que je suis son enfant. S'il m'aimait pas, bah il me laisserait, il me dirait, bah vas-y, fais ça, tu vas te détruire, je m'en fiche, je t'aime pas. Heureusement que Dieu n'est pas comme ça, n'est-ce pas, hein? Et finalement, on voit ça d'une manière négative, en disant, ben, le Seigneur, il m'éprouve, il fait ça, et on ne réagit pas qu'en fait, s'il le fait, c'est parce qu'il nous aime, avant tout. Alors, en pensant aux épreuves, on revient souvent à Job, et dans Job 1, verset 9, « Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Et vous savez comme moi, Job n'a pas maudit Dieu du tout. Il s'est plaint de son sort, c'est sûr, mais il n'a pas maudit Dieu. Il est resté fidèle à Dieu dans tout ce qu'il a dit. Et du coup, le malin a raté son coup. Et Dieu devait être, j'imagine, la satisfaction de Dieu de se dire, il m'aime réellement, Job, il ne m'a pas renié même quand je lui retirais tout ça. Et nous, comment est-ce qu'on réagit quand Dieu nous retire quelque chose ? Dieu a donné, Dieu a repris, que Dieu soit loué. C'est ça qui était dans la bouche de Job quand il a subi tout ça. Et je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous a pu subir tout ce qu'il a subi quand on voit le livre de Job. Les épreuves, elles arrivent. Alors, là, du coup, c'est un mauvais exemple pour moi parce que c'est le diable qui vient et qui dit, ben, tu vois, lui, il te bénit uniquement parce que tu lui donnes quelque chose. Ok, je retire toute chose, regarde, il me bénit encore. Et nous, comment est-ce qu'on réagirait ? On reprend les positions un peu gênantes, comme ça, je sais pas. Non, je sais pas non plus moi-même. Je peux vous dire que je réagirais bien, j'en sais rien. Mais ma prière à Dieu, c'est que, ben, Seigneur, si tu retires des choses, eh ben, que je puisse réagir comme Job, dire simplement, accepter ce que tu fais, et te faire confiance que tu pourvoiras pour la suite et que c'est dans ton plan, même si je le comprends absolument pas. Alors, Dieu a donné la manne dans le désert au peuple d'Israël. Et c'est un exemple que Dieu, finalement, peut nous nourrir directement. Et il y en a d'autres comme ça dans la Bible. On voit Élie qui a été nourri par les corbeaux, qui lui apportaient du pain, qui lui apportaient de la viande. Et le verset dit que, finalement, c'est ce qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Voilà, afin de t'apprendre, donc au verset 3, que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc c'est vrai, Dieu veut nous nourrir de choses spirituelles, mais en même temps, si on regarde ce verset, directement, Dieu a nourri physiquement son peuple. Et là aussi, c'est important pour nous de savoir que, comme Israël, Dieu veut nous donner tout ce qu'on a besoin, et il ne veut pas juste rester dans des choses spirituelles et dire, bah, t'inquiète, enfin, il ne veut pas nous dire, t'embête pas avec le pain, tout ça. Il me dit, t'embête pas parce que je vais pourvoir. C'est l'unique raison pour laquelle il nous le dit. Et il pourvoit même au pain physique. C'est ça que je voulais dire dans ce verset. C'est que, ok, on ne peut pas se nourrir que de ça, mais le Seigneur pourvoit même à ça, en fait. je pense que je vais m'arrêter là avec le juste ce verset qui que je veux redire parce qu'il fait du bien en fait. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Et savoir que je suis enfant du Dieu qui a fait tout ça dans l'Ancien Testament, du Dieu qui a créé la terre, du Dieu qui est tout puissant, ben c'est un sujet de joie, je sais pas comment le décrire, mais c'est vraiment des versets qui font du bien, même s'il y a la partie je te châtie, je te corrige, ça fait du bien de savoir que je suis l'enfant de Dieu. Et lire ça dans l'Ancien Testament, ben c'est encore une preuve supplémentaire de l'amour de Dieu qui il a pas changé. C'est pas le Dieu de l'Ancien Testament qui était sévère, qui donnait des lois, tout ça, et qui devient d'un seul coup bon et plein d'amour dans le Nouveau Testament. C'est le même Dieu qui a toujours été plein d'amour envers nous. Je vais prier. Seigneur, je te remercie de toute ta parole, Seigneur, de tous ces passages où on a l'impression de lire le Nouveau Testament, Seigneur, dans l'Ancien. Et Seigneur, où on voit qu'il n'y a qu'un seul livre, Seigneur, qu'une seule lettre que tu nous as envoyée. Et Seigneur, je te remercie de cet héritage que tu nous donnes et effectivement d'un château qui est bien entretenu, Seigneur, où il y a beaucoup de choses dedans. Et Seigneur, où il y a tellement de choses qu'on a besoin de temps pour tout s'approprier correctement. Et Seigneur, merci de ce que c'est un héritage. Seigneur, je ne le mérite pas. Et pourtant, tu me le donnes. Et je te prie que chacun de nous, on puisse prendre conscience de ce qu'il y a dans cette lettre d'héritage, Seigneur, de tout ce qui est à notre portée. Et je te prie pour chacun de nous, Seigneur, qu'on soit prompt à accepter ces choses, à les prendre, et à ne pas se dire que nous ne méritons pas, qu'il faut travailler, ou toutes ces raisons-là, Seigneur. On te prie qu'on puisse être à ton écoute et pas à celle du malin, Seigneur, pour pas nous laisser détourner, pour pas refuser le pays que tu as promis pour nous, Seigneur. Amen.